Nous terminerons cet après-midi l'étude du prophète Jonas. Jonas, chapitre 4.
L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture de ce chapitre.
Le verset 10 qui termine le chapitre 3, je le rappelle, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. » Nous avons bien dit, n'est-ce pas, que Dieu change de résolution étant donné que l'attitude de la ville change. S'il a voulu que le jugement soit annoncé et qu'un délai de 40 jours soit accordé à la ville, c'est bien pour laisser place à une éventualité comme celle-là, le repentir de la ville, sans quoi la prédication n'avait aucun intérêt et il n'y avait qu'à laisser venir le jugement sans avertir. Mais un avertissement de Dieu, une prédication de Dieu, a toujours pour raison de ménager la possibilité d'un retour à Dieu, d'un renoncement au péché. Alors, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Voilà que Jonas n'est pas content. Et son mécontentement se porte vraiment contre l'Éternel. C'est contre l'Éternel qu'il est mécontent. Voilà l'homme. Dieu devrait agir selon lui, selon ce qu'il croit être la logique, selon ce qui satisfait sa pensée mauvaise, car la pensée de l'homme est naturellement mauvaise. Il faudrait que Dieu agisse selon l'homme, mais non selon lui. Dieu devrait donc agir au gré de l'homme, qui pense quelquefois que Dieu n'est pas assez psychologue, qu'il ne connaît pas suffisamment et sous un jour pratique les choses, et que Dieu, il oublie que Dieu est parfait. Jonas irrité, c'est Caïn irrité. C'est un autre Caïn, un nouveau Caïn, et des Caïns irrités, il y en eut tout le temps, il y en a toujours. Caïn est irrité contre Dieu parce que Dieu n'a pas répondu à son attente et selon ce qu'il désirait. Mais Jonas n'est-il pas prophète? Certes, il est prophète. Alors, cela peut nous étonner que le prophète ne soit pas autre chose, autrement que l'homme. L'homme pécheur. Oui, mais il est arrivé aussi que d'autres prophètes soient irrités. Jérémie, par exemple, qui, tout comme Job, va lui aussi un jour demander à l'Éternel d'en finir. La mort lui semble plus avantageuse que la vie qu'il mène et il déplore même le jour de sa naissance. Ici, nous voyons quelque chose de grave, vraiment. Jonas implore l'Éternel et il lui parle. Il implore l'Éternel, donc c'est une sorte de prière qu'il fait là. Et remarquons tout de suite que la prière qu'il fait est de toute autre sorte que celle qu'il a faite dans le ventre du poisson. Ici, il dit « Maintenant, Éternel », sous le coup de l'irritation naturellement, « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » C'est pas ce qu'il disait dans le ventre du poisson, où il cherchait au contraire le salut. Il voulait être sauvé. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Le salut vient de l'Éternel. Il cherchait le salut, là, quand il était dans la détresse. Et maintenant qu'il est là, rétabli, dans sa vie normale, Eh bien, là, cette prière, sous le coup de l'irritation, c'est-à-dire de la méchanceté de son cœur, tout simplement, eh bien, cette prière est une prière abominable. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Et c'est pas vrai. Dans le fond, il veut vivre. Tout à l'heure, il va être irrité parce que le soleil va le faire tomber en défaillance après que le petit arbuste que Dieu avait fait croître pour lui donner de l'ombrage aura péri. Alors là, il va demander encore la mort. Mais c'est faux! Il ne désire pas la mort. Voyez, comme tout est faux, tout est mauvais dans une prière qui est faite dans un tel, avec un tel cœur. Son cœur est livré à la méchanceté, son cœur est le cœur naturel, c'est la chair qui parle, et c'est quelque chose d'abominable. Et alors il va dire, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Il se donne raison. Il avait raison quand il refusait la première fois d'aller à Ninive, d'accomplir la mission que l'Éternel lui confiait. Il avait raison. Il se donne raison. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. J'avais bien vu les choses de loin, moi. Je savais bien ce qui arriverait. Et pour éviter ce mécompte, cet aboutissement que je juge mauvais, alors j'avais raison de m'en aller à Tarsis. J'avais raison. L'homme qui se donne raison devant Dieu, et il se donne raison d'avoir désobéi à Dieu. Mais c'est lamentable, ça. C'est absolument lamentable. L'histoire de Jonas présente beaucoup de traits communs avec la vie chrétienne. Alors, bien sûr, vous allez peut-être penser que les traits de ce récit sont un petit peu gros. Enfin, c'est, bien sûr, il est exact, il est vrai ce récit, mais enfin, l'attitude de Jonas est un peu outrancière, et que nous ne risquons pas quand même de tomber dans un tel travers. Attention, ne le disons pas trop vite. Et après avoir accompli un service puissant et efficace, après avoir, disons, été sauvé lui-même par son Dieu, eh bien, Jonas réapparaît comme l'homme de chair, comme un homme, nous dirions aujourd'hui, absolument inconverti qui n'a rien reçu de la parole de Dieu. L'homme courroucé dont la pensée se sépare de Dieu et même dont la pensée lutte contre Dieu. J'avais raison, n'est-ce pas ce que je disais encore ? J'avais raison contre toi, Seigneur. Toi, tu avais pris cette décision que j'aille à Ninive, et bien ce n'était pas bon, c'est pas ce qu'il fallait. J'avais raison, moi, de désobéir. Quelle triste et repoussante attitude que celle du prophète Jonas. Et pour nous aider à méditer là-dessus, nous pourrions nous rappeler ce que le prophète Jérémie dit dans son chapitre 17. Maudit soit l'homme, ce chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui. C'est ce que fait Jonas ici, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Voyez-vous, l'homme qui détourne son cœur de l'Éternel, il a ses propres pensées, et ses propres pensées s'opposent à celles de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert. Et puis, béni soit l'homme qui se confie dans l'homme, et dont l'Éternel est l'espérance. Et un peu plus loin, au verset 9, le cœur de l'homme en général, le cœur est tortueux par-dessus tout. On peut traduire ici « le cœur est rusé ». Le cœur est tortueux, rusé. Il a des détours qui sont imprévisibles même. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Voyez-vous, le cœur de l'homme naturel, de tout homme, le cœur de tout homme naturel est un mystère. On pourrait dire qu'il y a dans le cœur de l'homme le mystère de l'iniquité. Il y a des choses inattendues, des choses déconcertantes. La méchanceté se présente sous un jour souvent absolument inattendu. Et ça, on le trouve chez des enfants, plus ou moins marqué, mais on le trouve chez des enfants. On voit ça chez des enfants, ce qui nous permet de dire que le péché, c'est bien un triste héritage. Cain naît à l'image et à la ressemblance d'Adam, c'est-à-dire d'un homme devenu révolté, devenu pécheur. Et Cain est un homme révolté, pécheur. Il est à l'image. Et nous, nous sommes à l'image d'Adam, à l'image de Cain. Alors, ça s'exprime de manière différente d'un individu à l'autre, mais c'est toujours là, le cœur est tortueux par-dessus tout. Comment voici un prophète qui s'entretient familièrement avec son Dieu comme un enfant avec son père. Dieu lui parle. Et il peut dire ce qu'il veut à Dieu. Et voilà cet homme qui est mécontent du succès que sa mission a remporté, la mission que Dieu lui avait confiée. Il est mécontent du succès. Il reproche à Dieu sa miséricorde. C'est ce que je voulais prévenir ou éviter en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, Dieu lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Et ça ne me convient pas. Ça ne convient pas à Jonas, cela. Il reprend les propres paroles de Dieu, mais ça ne lui convient pas. Je le savais, ça. Et je m'en méfiais. Je me méfiais de ça. Mais c'est vraiment terrible. C'est ça le cœur de l'homme. Voilà le cœur de l'homme, et voilà le nôtre. Et voilà pourquoi il faut que notre cœur soit changé. Et si notre cœur n'est pas changé, il reste comme ça. Aurons beau essayer de masquer plus ou moins, nous resterons avec cette puissance du péché, cette force, cette résurgence du péché en nous. Ça ne nous plaira pas non plus, nous, que le Dieu soit miséricordieux. Ça ne nous plaira pas. Nous allons essayer de situer ça un peu. En somme, Jonas éprouve le dépit d'un amour propre froissé. Il faut préciser que, à ce moment-là, au moment de sa prière, là, au moment du récit du chapitre 4, les 40 jours ne sont pas épuisés. Et il sait que Dieu se repent du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas marqué explicitement dans le texte, mais ça, c'est implicite, n'est-ce pas, implicite, puisque tout à l'heure, on va voir Jonas qui va s'installer là, à bonne distance, en dehors de la ville, et puis va rester là pour voir ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'il va attendre les 40 jours, puis il va voir si vraiment, n'est-ce pas, le jugement frappe la ville ou non. Donc, nous sommes avant l'épuisement des 40 jours. Et Dieu lui dit, eh bien, c'est bien, ta prédication a eu un effet superbe, ils se sont tous repentis. Alors, je ne vais pas les frapper de mon jugement. Je ne vais pas les frapper. Oh, c'est là, n'est-ce pas, que Jonas est mécontent, son amour propre est blessé. Mais blessé. Et c'est ce qui compte avant tout, son amour propre d'homme. Il préférerait la mort de toute une ville plutôt que de subir cette sorte d'atteinte à son amour propre plutôt que d'être blessé dans son orgueil. Car l'amour-propre, ce n'est pas autre chose que de l'orgueil, dans son orgueil d'homme. Et le prophète est redevenu l'homme orgueilleux, et il est blessé dans son orgueil. Il préférerait que le Ninive représenté, peut-être, je ne sais pas, à ce moment-là, le dixième ou plus encore de l'humanité, une grande fraction de l'humanité, nous avons dit que c'était une ville d'un million peut-être d'habitants, eh bien, mieux vaudrait que tous ces gens-là soient détruits d'un seul coup plutôt que Jonas ait à souffrir, lui, d'une blessure de son amour-propre. Mes amis, est-ce que c'est pas vraiment affligeant une telle chose? Et si c'est dans la Bible qui nous parle, qui est le livre de Dieu, et qui est le livre qui doit nous transformer, nous, alors c'est bien parce que il faut que cela soit étalé à notre vue, que nous puissions réfléchir à de telles choses, et se dire, Jonas n'était pas un homme particulièrement méchant, beaucoup plus méchant que tout autre. Il était tout simplement un échantillon de cette humanité dont je suis, moi, un autre. Voilà ce qu'il faut que nous nous disions. Ça nous rappelle, évidemment, cette irritation ce désir de choisir plutôt la destruction de Ninive qu'une blessure d'amour propre. Ça nous rappelle un peu aussi l'attitude des deux apôtres. Vous voyez, les apôtres, ce n'est pas non plus des hommes tirés d'une autre souche que de cette humanité mauvaise, parce que Jean et Jacques, fils de Zébédée, en passant à Samarie, où on leur refuse le jugement parce qu'ils sont juifs, toujours cette animosité entre Samaritains et Juifs, on ne veut pas les loger, et puis tout de même, le soir est arrivé, puis eux voudraient bien tout de même disposer d'un lit, d'une couche pour passer la nuit, continuer à marcher encore, on est fatigué, hein. Et ces gens-là ne veulent pas nous donner le gîte. Ah, Seigneur, ordonne que le feu du ciel descende et puis les consume tous. Voilà, la chose est réglée comme ça. Voilà, n'est-ce pas? Voilà l'homme. Et c'était deux apôtres. Et parmi ces deux apôtres, enfin on peut dire que les deux apôtres, après, n'est-ce pas, vont se révéler magnifiques. Jacques va être le premier martyr des apôtres, et puis Jean va être cet apôtre magnifique qui aura vocation à exprimer l'amour de Dieu. Ben oui, ils étaient... le feu du ciel, voilà, n'est-ce pas? Allez, détruisez-moi tout ce monde-là, n'est-ce pas? Et puis comme ça, on aura de la place pour se loger. C'est quelque chose, n'est-ce pas, de monstrueux, on peut dire que c'est monstrueux. Vraiment, n'est-ce pas, il faut voir cela, l'homme est monstrueux, celui qui ne sait pas ça, comprend pas le salut, comprend pas la Bible, comprend pas l'action de Jésus-Christ, si on ne sait pas ces choses-là. Et si on se croit soi-même, ma foi, pas si mauvais que ça, on n'a ni tué ni volé, on n'a pas fait tant de mal, une petite amélioration et puis ça sera bien, mais pas du tout. C'est une refonte de fond en comble qu'il faut chez l'homme, un cœur nouveau, vraiment. Eh bien, si c'est monstrueux de chez Jonas, cela, et chez tout homme, quel qu'il soit, tout homme naturel, l'homme psychique, comme dit Paul, eh bien, c'est monstrueux aussi chez un chrétien. Un chrétien révolté, c'est monstrueux. Bien sûr, on peut très bien mettre, voire, enfin, peut-être des atténuations à l'avantage de Jonas, et puis dire qu'il était juif, bien sûr, et que les juifs en général avaient du mal à supporter que les païens, comme l'étaient les Ninivites, puissent avoir accès à la bonté de Dieu comme eux-mêmes. Eux, ils étaient le peuple élu, ils étaient le peuple de l'Alliance, et par conséquent, ils se voyaient des privilèges. Il voyait avant tout des privilèges, le peuple élu, et il se voyait sauvé, il se voyait, entrer dans le royaume de Dieu, le royaume éternel de Dieu, tout simplement parce qu'ils étaient juifs, ou israélites si vous voulez. Bon, alors ils voyaient ça, c'était faux, c'est ce qui est combattu évidemment, nous l'avons déjà vu ce matin, et pour eux, les païens n'étaient pas dans cette alliance, ce qui était vrai bien sûr, mais pour eux, alors ces païens hors de l'alliance, était bon pour la GN. C'était toute une grande part de l'humanité qu'on pouvait d'un seul coup jeter en enfer. Voilà ce qu'ils avaient fini par comprendre, ce qui avait par conséquent faussé entièrement le message de Dieu, on peut dire le message même de la loi. Rappelons-nous la parabole du fils prodigue, par laquelle Jésus dénonce un peu cela lorsqu'il nous indique quelle est l'attitude du fils aîné. Le fils aîné qui voit que le père fait une fête à son frère qui était parti avec sa part d'héritage, qui a tout dilapidé, et puis quand il n'a plus eu un sou, qu'il a été dans la misère, était obligé de manger la nourriture qu'on donnait aux porcs, alors il s'est repris, il s'est repenti, puis il est revenu chez lui, à la maison du père, pauvre, dénudé, et puis le père l'accueille, on fait une fête, on tue le veau gras. Et puis le fils aîné qui, lui, est toujours resté fidèle à son père dans la maison, voit cela, et il a au cœur de l'amertume. De l'amertume. Vous voyez, c'est un peu ça qu'éprouvaient les Juifs. Et il ne faudrait pas que nous éprouvions pareil sentiment. Mais, je disais, je reviens à ça, un chrétien doit savoir considérer toutes ces choses, et notamment ce récit qui nous est proposé ici par la Sainte Écriture, et se juger lui-même, redescendre dans le fond de son cœur, et aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose, des choses qui soient un petit peu apparentées avec l'irritation, les causes de l'irritation de Jonas. Examinons donc notre propre cœur, ressemble-t-il, même un peu, même par certains côtés seulement, ressemble-t-il à celui du prophète Jonas en ce moment-là? Eh bien, essayons de voir un peu ensemble, il n'arrive-t-il pas, par exemple, que nous prenions plus vite notre parti du mal qui arrive aux autres que du bien qui leur échoit. On prend quelquefois vite son parti du mal et on ne prend pas si vite parti du bien qui arrive aux autres. En effet, n'y a-t-il pas même quelquefois un tout petit grain d'envie en constatant que d'heureuses choses, par exemple, arrivent à certains et pas à nous. Tiens, regardez-moi cette belle situation qu'il a eue ou que son fils a eue. Regardez-moi cette belle maison, hein. Il en a eu de la chance. Ah, il a été béni du Seigneur. Oui, pas moi. Moi, non. Je n'ai pas été béni comme ça. Hein. Ma maison, hein. Ah, bah oui, oui, oui. Presque un peu plus, on dirait. L'Éternel n'est pas égal, hein. Pas juste. Il lui donne beaucoup de choses à lui, puis moi. Et pourtant, je suis chrétien, je suis fidèle, je vais à mon assemblée, et oui, et je pâtis de pas mal de choses. Tandis que lui, regardez-le, tandis que celle-là, regardez un peu, n'est-ce pas, et, tout lui réussit. Ben ça, c'est dans l'Écriture aussi, n'est-ce pas? Attention, attention, mes amis, il y a des sentiments comme ça, il peut y en avoir, ils sont un petit peu voilés, un petit peu cachés, ils sont dans tout le fond du cœur, ça, il faut aller dans le bas. Pas dans le bas, c'est là qu'on les retrouve, ces sentiments-là. Il y a des choses, donc, qui peuvent arriver à d'autres que nous, et que nous que ces autres, nous les jugeons moins fidèles. Nous les jugeons moins pieux que nous, moins dignes de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu que nous. Or, c'est eux qui ont les plus grandes manifestations de la bonté, et nous, les plus restreintes. Nous en avons moins qu'eux. On a, par exemple, entendu dire ceci, et je l'ai entendu dire, chers amis, par des bouches chrétiennes. Ah, voyez, eux, ils sont guéris par l'Éternel. Ils ont été guéris, qu'est-ce que vous voulez? On doit reconnaître, n'est-ce pas? L'Éternel est puissant, l'Éternel guérit, ils ont été guéris. Et puis moi, j'ai pas été guéri. Pourtant, je prie l'Éternel, je prie depuis des années, j'ai pas été guéri. Ah, vous voyez, il y a une petite pointe, de jalousie, de rivalité. Moi, j'ai pas été guéri, eux, ils sont guéris. Regardez, ils sont venus à la réunion d'évangélisation, la première réunion d'évangélisation, pop, là, ils sont guéris, magnifique. Et puis moi, je traîne mon mal depuis des années, puis j'ai prié l'Éternel, je suis allé combien de fois à l'imposition des mains, puis je suis revenu, allez, toujours pareil. Hein? Alors, on va dire ça comme ça, puis on va pas dire, mais si le Seigneur m'a pas guéri, peut-être me parle-t-il par ce moyen. Faudrait peut-être que je redescende alors un petit peu en moi, que j'aille voir avec beaucoup plus d'humilité si vraiment peut-être il n'y a pas une raison. Il y a peut-être une raison. Alors quelquefois on se donne une raison, mais une raison qu'on ne va pas chercher dans un examen véritablement profond de soi-même. On va chercher une raison ailleurs. On va dire voilà. L'Éternel, moi, m'éprouve, voyez-vous, et il éprouve le juste. C'est le juste, c'est écrit ça, c'est le juste qui est éprouvé. Moi, il m'éprouve par la maladie, n'est-ce pas? Il ne me guérit pas parce qu'il m'éprouve, et parce qu'il veut que, par la maladie, n'est-ce pas, et par la résignation que je vais montrer dans la maladie, eh bien, je sois un témoignage, voyez-vous, je suis un témoignage. Oh, que le cœur de l'homme est tortueux, méfions-nous de cela. Mes amis, il faut qu'un chrétien soit guéri de tout ça. Et puis, il y a d'autres, peut-être d'autres circonstances qui font apparaître ce sentiment de l'homme naturel. Toujours cette amertume qui vient de l'état de péché de l'homme naturel qui n'est pas mort, l'homme naturel qui revient encore, réagit encore, réintroduit encore ses propres pensées. Prenons d'autres exemples. Nous avons quelquefois, mettons, donné un conseil à quelqu'un. On donne un conseil à quelqu'un. Bien. Et puis, alors après, le temps passe un peu, et nous voyons que ce quelqu'un n'a pas suivi notre conseil. Notre conseil était le bon, n'a pas suivi notre conseil. Et puis, nous nous disions dans notre pensée, il va voir les conséquences, il va en mesurer les conséquences. Ça veut dire, n'est-ce pas, attention, il va être puni. Et puis, pas de punition, pas de châtiment. Voilà que celui à qui nous avons donné le conseil, au contraire, tout va bien, semble-t-il, tout va bien, n'est-ce pas? Eh bien, secrètement, nous aurions désiré qu'il soit puni, qu'il soit châtié. Puis Dieu, au contraire, ne l'a pas châtié, Dieu lui a montré sa bonté, son amour. Ah, nous n'aimons pas ça. Ça nous gêne, ça. C'est gênant. Nous avions donné un conseil, on n'a pas suivi notre conseil, eh bien, il fallait qu'il y ait châtiment. Seigneur, tu es trop miséricordieux. Mais oui, c'est ça, chers amis, c'est ça. Il faut le dire, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez? Il y a de cela dans le fond des cœurs. Cela, nous devons nous en débarrasser. Et puis, il peut arriver, autre exemple, que nous ayons fait des pronostics assez funestes sur une personne. Connaissons une personne qui persiste à suivre une mauvaise voie. Elle agit très mal, son comportement, sa conduite, oh, c'est douteux. À chaque fois qu'il y a quelque chose de mal à faire, il ne rate pas l'occasion, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je le dis, attention, n'est-ce pas, ce qui va lui arriver, elle verra, cette personne, elle verra ce qui va lui arriver. Et puis, voici que les événements nous apportent un démenti. Il lui arrive rien, n'est-ce pas ? Il arrive rien à cette personne, et même on dirait que ça va très bien. Ça va très bien, nous avons ce cas dans les psaumes, n'est-ce pas ? Ça va très bien pour elle. Et puis, la bonté de Dieu semble même avoir été plutôt son partage. C'est pas le châtiment que Dieu lui a donné, c'est sa bonté, toujours, sa bonté. Et puis, alors nous, nous en sommes fâchés. Nous ne sommes pas contents. Nous sommes comme Jonas, au fond de nous-mêmes, nous sommes irrités. La bonté pour une telle personne, non. Chers amis, vous allez me dire que je force le trait. Pas du tout. J'ai plus d'une fois entendu dans notre milieu, dans l'Église, à propos de certaines personnes. Évidemment, quand on va dans une Église qu'on ne connaît pas, on voit des personnes qui ont des problèmes et puis on s'intéresse à leurs problèmes, on voudrait bien que pouvoir les aider et par conséquent intercéder, prier pour elles pour que ce problème soit réglé, n'est-ce pas ? Et puis alors, on entend quelquefois d'autres chrétiens qui vous disent « Oh, celui-là, c'est pas la peine ! Oh, celle-là, pas la peine ! Oh, on lui a dit tant de fois, a prié tant de fois, mais si vous voulez, elle restera comme elle est !» J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Alors je dis, c'est pas la peine de prier pour elle. Oh, on l'a fait tant de fois. On l'a fait, puis il n'y a pas de résultat. C'est toujours la même chose. Nous ne comprenons pas les compassions de Dieu. Nous n'avons pas au cœur la miséricorde de Dieu. Nous, volontiers, il y a des personnes que nous jetterions tout de suite dans l'enfer. Allez, on s'en débarrasse. On les jette dans l'enfer, n'est-ce pas ? Nous n'en voulons plus, nous n'avons plus d'espérance pour ces personnes-là. C'est plus possible, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est un péché, cela, chers amis. Ça vient de notre cœur mauvais. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus, en nous parlant, parce qu'il a parlé à nous, là, il nous a demandé de demander à Dieu le Saint-Esprit. Il a demandé de demander le Saint-Esprit. Tout à l'heure, nous avons chanté le feu. Il nous a donc invités à demander par la prière le feu. Et quand il nous a invités ainsi, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Méchant comme vous l'êtes. C'est pas moi qui, vous voyez, méchant comme vous l'êtes. Vous savez demander de bonnes choses, vous. Hein ? Vous savez demander de bonnes choses, et quand vos enfants vous demandent quelque chose, si vous demandez un œuf, vous ne leur donnez pas un scorpion. Alors, méchant comme vous l'êtes, si vous demandez à Dieu, votre Père, de bonnes choses, ne vous les donnera-t-il pas ? Ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit ? Et le Saint-Esprit, il faut penser qu'il viendra, lui, avec son feu, changer, brûler dans votre cœur tout ce qui doit en être extirpé. Et nous avons besoin d'un nettoyage de notre cœur par le feu du Saint-Esprit. Voyons encore autre chose. Nous avons peut-être éprouvé un secret dépit de voir, par exemple, dans le cas que je disais tout à l'heure, notre jugement en défaut. Eh bien, il y a des cas où le cœur, même chez un chrétien, peut préférer que un malheur à une manifestation de la bonté de Dieu. Préférer le malheur, oui. Un malheur, en somme, aurait mieux justifié notre sagacité. Ce que nous avions pensé, parce que nous sommes très forts dans la doctrine pour l'appliquer aux autres, hein. Les commandements de Dieu, nous les connaissons très bien pour les appliquer aux autres, pour voir chez les autres la paille dont nous faisons une poutre. Et puis la poutre qui est dans notre œil, nous a dit le Seigneur, nous ne la voyons pas. Alors, il arrive même ceci, dans la même attitude que Jonas, que nous préférerions quelquefois un malheur, qu'un malheur arrive, plutôt que de voir la miséricorde de Dieu venir à l'avantage de quelqu'un sur qui nous avons, nous, prédit le malheur, la mauvaise issue. Alors, le cœur est tortueux, nous dit le Seigneur, l'Écriture, que la conduite de Jonas soit une révélation pour nous et une invitation à rechercher une plus profonde purification de notre cœur. Ce n'est pas tout de dire, Seigneur, donne-moi un cœur pur et de le changer, c'est bien. C'est ce qu'a demandé David, oui, donne-nous un cœur pur. Mais savons-nous ce que c'est qu'un cœur pur? C'est un cœur transparent, dans lequel on ne laisse pas une certaine vase dans le fond. Il faut que le fond soit net, transparent. Alors, demandons un cœur pur, mais le Seigneur veut que nous demandions un cœur pur et que nous sachions quelles sont les choses qui peuvent empêcher cette purification, qui peuvent être le contraire, qui peuvent souiller notre corps, notre cœur. Et pour cela, il nous a donné ce miroir, cette parole, c'est un miroir. Il ne s'agit pas simplement de se regarder quand on se convertit, mais Jacques nous invite, invite tout chrétien à se regarder dans le miroir et de ne pas oublier l'image qu'il voit ici, pour que nous puissions véritablement dénoncer devant Dieu, sans faiblesse, dans notre relation personnelle avec lui, et au nom de Jésus, dénoncer sans faiblesse ce que nous aurons vu au fond de notre cœur. Seigneur, change-moi, donne-moi vraiment un cœur pur, que le cœur naturel soit définitivement supprimé, et que j'ai un cœur nouveau. Et l'apôtre Paul nous dit quelque chose dans 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor, le trésor c'est l'évangile, disons, il a parlé de l'évangile plus haut, la parole de Dieu, l'évangile. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. L'évangile est puissant par lui-même. Et c'est ce que Jonas a oublié, sa prédication, c'est pas lui. Pourquoi la prend-il tellement à cœur, à son compte? Il n'a été que l'instrument. Mais la puissance de la parole qu'il a portée là, elle est attribuée à Dieu, elle doit rester attribuée à Dieu et non pas à lui. Et si nous faisons, nous, quelque chose dans le cours de notre vie chrétienne, nous faisons quelque chose qui porte, mettons, du fruit, et si nous faisons quelque chose qui a été le bien, quelque chose qui a honoré le Seigneur par nos paroles ou notre conduite, n'est-ce pas? Eh bien, alors sachons attribuer cela à Dieu et non pas à nous. Et par conséquent, n'y attachons pas un amour propre. Vous voyez, il ne faut pas y attacher un amour propre. C'est à Dieu. Nous avons fait l'action de Dieu. Maintenant, l'action de Dieu, Dieu va la continuer comme il voudra. Va la continuer comme il voudra. Ou bien il va faire intervenir son jugement. Il l'a déjà fait même au cours des âges chrétiens. Il l'a fait. Il y a des cas de jugement de Dieu, comme par exemple à Saint-Pierre de Martinique en 1902. C'est un jugement de Dieu, un véritable jugement de Dieu, n'est-ce pas? Alors, Dieu frappera par un jugement toute une population de 28 000 habitants, moins un, a péri d'un seul coup. Population entière, 28 000 habitants. Et c'était un jugement de Dieu. Il y avait eu des avertissements avant. Mais aussi, il est possible que Dieu décide de faire miséricorde, se repente, comme nous avons lu, et fasse miséricorde. C'est pas à nous, nous ne pouvons pas nous savoir ce qu'il faut, ce qui vaut le mieux sur le moment, ou bien faire miséricorde, ou bien peut-être agir le jugement. L'Éternel répondit à la prière de Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Cette réponse de Dieu est magnifique. En somme, Dieu aurait pu très bien aussi bousculer un peu Jonas, n'est-ce pas, le ramener durement à la raison. Ben non, non. Dieu regarde Jonas comme un enfant qui est saisi par un feu intérieur, le feu de la gêne, le feu de la colère, n'est-ce pas ? Et puis comme un tendre père, il va lui dire tranquillement, « Fais-tu bien de t'irriter, voyons ? Réfléchis, est-ce que tu fais bien de t'irriter ?» Et puis ensuite, le récit nous présente Jonas sortant de la ville et s'asseyant à l'orient de la ville, c'est-à-dire à l'est de la ville. Et puis là, il se fait une cabane avec des roseaux. Certainement, il y a beaucoup de des plantes un peu analogues aux roseaux, des grands roseaux dans ces régions. Dès qu'il y a un peu d'eau, il y a tout de suite là des grands roseaux qui poussent. Alors il fait une cabane avec ça. Et il s'y tient à l'ombre. Évidemment, l'ombre des roseaux n'est pas idéale. Hein. Les roseaux ont des feuilles très allongées, puis ils n'en ont pas beaucoup. C'est surtout des bâtons, les roseaux. Enfin, c'est pas l'idéal. Mais il se met là jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Il n'est pas encore acquis. Il n'est pas certain de la parole de Dieu. Dieu lui a dit qu'il se repentait, étant donné du mal qu'il avait résolu de leur faire, et qu'il ne va pas le faire, il est prévenu, et alors il se dit, malgré tout, il va peut-être le faire quand même. Hein? Et puis, étant donné ma prière, qu'il croit bonne, lui, étant donné que j'ai fait des reproches à Dieu, alors Dieu va peut-être se repentir une deuxième fois dans l'autre sens, hein, et revenir à son intention première de détruire Ninive. Voilà ce qui plairait à Jonas. Mais il se dit, la destruction quand même de la ville, ça va être quelque chose de terrible. Mettons-nous un peu, prenons le large, mettons-nous nous à l'est, assez loin de la ville. On verra de loin ce qui se passe. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'élevait au-dessus de Jonas, qui s'éleva au-dessus de Jonas. Alors ça pousse très vite et en une nuit. Il y a là un fait miraculeux que Jonas peut lui-même constater, que tout de même, même si c'est une plante qui croît rapidement, en une nuit, n'est-ce pas, venir et puis faire des branches et des feuilles, un ombrage au-dessus de la cabane de Jonas, tout de même, hein, et puis c'est la nuit que ça se passe, ça. En général, la croissance se fait tout de même le jour. Hein. Il y a un fait donc miraculeux pour donner l'ombre sur la tête et pour lui ôter son irritation. Avec un peu moins de soleil sur la tête, peut-être que Jonas aura plus de raison. Hein? Alors, Jonas, lui, quand il voit, en se réveillant le matin, ce magnifique ombrage, ces larges feuilles sur sa cabane de peut-être de bambou, n'est-ce pas ? Et quand il voit cela, là-dessous, le soleil va se lever, va entrer dans son ardeur, et puis lui, il est bien à l'abri, alors il éprouve non pas une petite joie, mais une grande joie, nous dit le texte, une grande joie à cause de ce ricin. Ah, voilà un changement de sentiment. Tout à l'heure, il était irrité, parce que Dieu était miséricordieux à l'égard de toute une population. Et puis, maintenant, il entre dans une grande joie parce que pour lui, personnellement, pour son petit bien-être, Dieu lui a donné quelque chose, Dieu a manifesté sa bonté, mais sa bonté, ça lui est dû, la bonté de Dieu lui est due à lui, pour son petit bien-être. Alors là, ça lui cause de la joie. Il n'a pas de la joie parce que Dieu épargne 1 million d'hommes et des animaux. Non, ça ne lui cause pas de la joie, ça lui cause de l'irritation. Et par contre, il a de la joie, de la grande joie, parce que son petit bien-être vient d'être pris en charge par Dieu. Dieu lui donne un petit bien-être. Alors ça, il apprécie vraiment au point d'être dans la joie. Fini l'irritation, maintenant il est dans la joie. Et c'est bien une leçon, naturellement, que Dieu voulait lui donner. Nous avons bien dit qu'il y avait, entre Jonas et le Seigneur Jésus-Christ, comme en bien d'autres personnages bibliques, un rapprochement à faire, une sorte de confrontation. Et cette confrontation, en général, on la signale en utilisant le système de la typologie, avec quoi il faut être très prudent. Très prudent. Mais enfin, nous disons, Jonas est un type de sauveur, de type de Jésus-Christ. Bon, mais ça ne va pas très loin. Dans certains aperçus de l'action de Jonas, action qui d'ailleurs est celle de l'Esprit de Dieu par lui, n'est-ce pas? Mais dans certains aspects, oui, il peut être un type, mais pas dans tous les aspects. Quand il redevient l'homme, il n'y a plus rien de commun avec Jésus-Christ. Au contraire, il y a contradiction. En effet, le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé, lui, devant une grande ville, une ville qui tenait même à cœur à Dieu, son Père. Il s'est trouvé devant Jérusalem, à Jérusalem. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il, lui aussi, s'est affligé, c'est pas irrité, mais il s'est affligé, il a pleuré. Et il a pleuré, pourquoi? Parce qu'il voyait que cette ville ne recevait pas le don de Dieu, et que cette ville persistait dans la négation, dans une attitude néfaste, une attitude de refus, et que par conséquent, elle allait nécessairement vers son malheur. Ô toi, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et pourtant, tes habitants ont été comme des poussins que la poule mère prend sous ses ailes. L'action de Dieu a été comme l'action de cette poule qui prend ses poussins sous ses ailes. Mais tu n'as pas su reconnaître la chose et tu continues dans ta révolte. Tu continues dans ton indignité et c'est le malheur qui va. Et Jésus a pleuré à cause du malheur. Tandis que lui, Jonas, il est affligé à cause du bonheur des Ninivites. Voyez la différence, n'est-ce pas? Énorme, énorme. Alors, on peut dire ceci, mais n'y a-t-il pas une différence entre le Seigneur Jésus et nous-mêmes, et chacun de nous? Ça, c'est un moyen de s'examiner. Le Seigneur Jésus, il faut lire, il faut relire les évangiles. D'ailleurs, si on veut conserver un bon contact, une bonne relation avec le Seigneur, si on veut connaître bien notre voie, il faut relire les évangiles, les autres parties de la Bible aussi. Mais il faut souvent relire les évangiles pour voir Jésus à l'œuvre et puis se dire, s'il faut méditer bien sûr, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le Seigneur Jésus et moi? Et il y a un livre, un petit livre, qui a été en circulation il n'y a pas bien longtemps, il n'était pas mal, je ne sais pas d'où ça venait, et ce petit livre était intitulé quelque chose comme ça, « Qu'aurait fait Jésus, le Seigneur Jésus, à ma place ?» Alors, c'est toute une histoire qui est racontée, n'est-ce pas? Il y a Une histoire, on ne pense pas que ce soit... Il y a peut-être des éléments vrais à l'origine, j'en sais rien. Enfin, une histoire qui est racontée, et dans le cours de cette histoire, il y a un personnage particulièrement qui s'interroge toujours et qui dit, voyons, je voudrais être fidèle à Dieu. Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Qu'aurait-il fait? Alors, non seulement il faut s'interroger de cette manière-là, hein, mais il faut d'abord s'interroger pour savoir s'il n'y a pas une différence entre la pensée de Jésus et la nôtre, entre les sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus et qu'on nous demande d'avoir, et ceux que nous avons réellement. C'est ça la confrontation qu'il faut faire, la comparaison. Mettons Jonas et Jésus, nous voyons, n'est-ce pas, ils sont en opposition à ce moment-là. Ah, Jonas n'est plus le type du Sauveur. Ils sont en opposition. Ne serions-nous pas, nous, encore, peut-être, quelquefois, en opposition avec le Seigneur Jésus, alors qu'il nous est dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et d'avoir la pensée de Christ. Nous, nous avons la pensée de Christ. Ensuite, le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. C'est curieux, n'est-ce pas, l'action de Dieu là, avec son prophète. Mais il veut mettre en évidence la méchanceté du cœur de Jonas pour qu'il la reconnaisse. Il faut reconnaître les choses pour en être guéri. Alors il fait venir un ver qui pique le ricin. Au lever du soleil, en plus, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, un sirocco. Pas s'il y a des gens qui connaissent le sirocco, enfin, mais le sirocco qui souffle en général 3 jours, et c'est quelque chose de pénible. En plus, le soleil qui darde vraiment là, les rayons puissants dans ce pays d'Orient, et puis le sirocco qui souffle par là-dessus, moi je le connais, hein, en Algérie, dans le sud algérien. Vous savez, quand il y a du sirocco, hein, il ne s'agit pas d'avoir la tête nue. Un casque colonial, comme on l'appelait, est la moindre des protections, mais il en faut quelquefois bien plus que ça. Ben, c'est éprouvant, il faut dire que c'est éprouvant. Alors, Jonas tombe en défaillance. Hein. Sa cabane, elle ne peut pas le protéger, le ricin a séché, et puis alors le vent souffle à travers les roseaux de la cabane. Ben, c'est comme s'il n'y avait rien du tout. Alors, il demande la mort à nouveau, la mort mais préférable à la vie. Et Dieu va lui dire, mais fais-tu bien de t'irriter? Tu t'irrites pourquoi? À cause du ricin et à cause de la protection qu'il t'accordait à toi et dont tu es privé. Alors, tu t'irrites parce que tu es privé d'un avantage, d'un effet de ma bonté, tu es privé de ça. Alors, Jonas répond comme... Un enfant, vous savez, qui est vraiment de mauvaise humeur et méchant devant son père, là. Oui, je fais bien de m'irriter, je fais bien de m'irriter, puis il pleure tout ce qu'il peut. Je fais bien de m'irriter, oui, jusqu'à la mort. C'est juste, c'est bon ce que je fais. Et l'Éternel de lui dire, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans la nuit et qui a péri dans la nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Alors, c'est la disproportion que Dieu veut placer devant la pensée de Jonas. Tu t'affliges pour ce petit ricin. Bon, tu n'y es pour rien du tout. C'est moi qui l'ai fait pousser, miraculeusement, pour te protéger. Et puis la nuit suivante, je l'ai retiré. Je l'ai retiré, j'ai bien le droit. Et puis, ce petit ricin, en lui-même, c'est peu de chose. Il peut en pousser des quantités d'autres de ricins. C'est peu de chose, cela. Et puis, ce qui est peu de chose aussi, c'est que ce ricin n'a procuré son avantage qu'à toi, qu'à la personne de Jonas, une personne, un homme. Et pour ça, tu as vu la bonté de Dieu, tu as eu une grande joie. Ah, la bonté de Dieu est grande parce qu'elle m'a procurer cet avantage, parce qu'elle s'est intéressée à moi, parce qu'elle m'a permis d'être à l'abri de ce qui causait ma souffrance, à moi, moi, l'intérêt, toi, tout seul, et là-bas, il y a 1 million d'âmes. Et alors, en plus, il y a des animaux en grand nombre, et Dieu n'est pas indifférent aux animaux, ce sont des êtres qu'il a créés. Et il y a des dispositions prophétiques concernant les animaux dans le rétablissement de toutes choses. Même l'Épître aux Romains que nous étudions contient un tel aperçu prophétique, n'est-ce pas ? Les animaux, il y a une alliance, Osée dit, parle d'une alliance avec les animaux pour le temps du règne de Jésus-Christ. Donc, les animaux... ce n'est pas quelque chose que le Créateur néglige, ce sont des créatures. Alors, ce qu'il faut recueillir comme leçon dernière de ce livre, hein, eh bien, c'est que l'avantage, la protection accordée à Jonas, c'est bien limité. Ça n'a fait que mettre en évidence l'égoïsme de l'homme. C'est peu de choses. Et puis, par contre, n'est-ce pas, le Ninive, c'est d'une importance énorme, ce sont des dizaines de milliers d'êtres à sauver, et il y a une disproportion, n'est-ce pas, et Jonas n'a même pas vu ça, il est véritablement aveuglé par son égoïsme et son cœur mauvais. Alors, Seigneur lui montre ça. Et chose assez curieuse, comme il arrive quelquefois, le livre du prophète Jonas se termine sans qu'il y ait une conclusion, comme c'est le cas par exemple pour le livre des Actes aussi. Il n'y a pas de conclusion. En somme, voilà, le récit s'arrête, l'écriture soudain se tait. Elle nous a montré les choses. Il a montré même comment Dieu voyait le problème, la leçon qu'il donne, la leçon de choses, la leçon dans l'action, dans le fait qu'il donne à son prophète Jonas, et puis, on ne sait plus rien, n'est-ce pas, l'écriture se tait soudain, nous laissant, nous, le soin de réfléchir. Vous voyez, c'est une invitation à réfléchir et à appliquer pour nous-mêmes les leçons que nous y avons trouvées. Et pour nous-mêmes, nous dirons, ceci, mais il est indispensable que nous nous examinions vraiment au fond et que nous abandonnions notre pensée, la pensée de l'homme vraiment, que nous abandonnions les sentiments de l'homme pour revêtir la seule pensée du Seigneur et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà le cœur nouveau qu'il nous faut, sans quoi... nous retomberons nous aussi dans des travers qui s'apparenteront avec l'attitude révoltante du prophète Jonas. Voilà ce que l'Écriture nous dit, elle nous parle. Hein? Et c'est une chose dont nous pouvons remercier le Seigneur. Amen.